Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ah, moi ça va, merci. Alors, bon, avant de commencer, un petit mot de remerciement, à la fois parce que c'est la coutume et puis parce que c'est sincère aussi. Merci au SIAO, merci particulièrement à Joël Meschulam, j'espère que je le prononce bien, pour tout le travail en amont. Merci à Émilie Bossan qui a disparu, qui est là. Et merci à Virginie Chevaux aussi. Et puis à vous tous, bien entendu, d'être là et de me supporter pendant 50 minutes. Ce n'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être devant vous ce matin, c'est en début d'après-midi. Donc je suis sociologue, maître de conférence à l'université Paul Valéry. Alors c'est un peu pédant comme titre, hein, maître de conférence. Puis surtout, ça fout la pression, quoi. C'est-à-dire que maître, tout de suite, j'ai mis ma chemise quand même. Alors, j'ai bossé sur la question, pas tant des addictions, mais j'ai bossé sur la question des usages de substances psychotropes, on pourrait dire de la drogue pour simplifier. D'ailleurs, j'utiliserai souvent ce mot de drogue plutôt que usage de substances psychotropes, qui est un peu long, mais c'est vrai que ce mot m'ennuie un petit peu et je suis poli. J'ai bossé là-dessus pendant 10-15 ans avant de bifurquer sur les vulnérabilités en général. Et j'ai bossé un peu au Pérou et un peu ici, donc dans des contextes un peu particuliers. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup traîné au Carré de la Boutique, beaucoup traîné au Carré d'Access, beaucoup traîné au XAPA Arc-en-Ciel. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels et de rencontrer aussi pas mal d'usagers. Alors, cette conférence aujourd'hui, c'est un peu théorique. Voilà, c'est un peu un des problèmes de la sociologie, c'est un peu un des problèmes de ma formation en tant qu'universitaire. C'est qu'on a tendance à devenir un peu perroquet. On forme des très très bons perroquets à l'université, c'est-à-dire que notre travail sert à répéter ce que les gens avant nous ont dit, eux-mêmes répétant ce que les gens avant eux ont dit. Voilà, donc cela dit, ça devrait assez bien s'emboîter avec ce qui s'est dit ce matin, puisqu'il y avait pas mal de cas pratiques et pas mal de choses qui vont rentrer en résonance, donc c'est très bien. Enfin, c'est très bien, vous me direz à la fin. L'hypocrisie est possible. Alors, l'annonce du plan, de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, bah déjà un petit peu, dans un premier temps, de la spécificité de la sociologie. Je suis obligé de faire un tout petit crochet. La sociologie, c'est hyper bizarre comme science, et on n'est pas trop habitué à cette discipline-là. Donc on s'arrêtera un petit peu dessus, mais pas très longtemps, hein, je vous rassure. L'idée, c'est d'essayer de comprendre que derrière les passages à l'acte dans les pratiques de consommation, bien, il y a aussi le poids du monde social, le poids de la structure sociale. C'est-à-dire qu'il existe des causes sociales du passage à l'acte. Ce n'est pas qu'un problème individuel, ce n'est pas qu'un problème médical, ce n'est pas qu'un problème biologique, etc., etc. Alors, je ne dis pas que, parce que ce n'est pas qu'un problème social non plus. Okay, on le verra, c'est un ensemble de tout ça. Mais on est hyper habitué au discours médical sur la question des drogues, beaucoup moins au discours sociologique et encore moins à d'autres discours. C'est-à-dire que le seul discours qu'on accepte sur les questions de drogue et d'usage, bah, c'est le discours scientifique, c'est celui qui est légitime. Ce qui questionne notamment pour les usagers, on pourrait y revenir. Alors ça, c'est un peu la spécificité de la sociologie. Et puis pour un objet complexe, c'est ce que je vous disais, c'est éminemment un objet complexe quand on le regarde, quand on veut essayer de le regarder de façon neutre, autant que faire se peut. Mais on est face à un objet qui est multifactoriel, qui est éminemment dur à cerner, des populations hétéroclites, des substances hétéroclites, des usages hétéroclites. Enfin, c'est le bordel, en fait, à définir ce dont on essaie de parler aujourd'hui. Et donc, on est face à un objet à prendre avec des pincettes, et je le répète parce que c'est quelque chose qui, moi, m'agace quelque part un petit peu, mais c'est aussi peut-être parce que j'aime pas que les médecins aient toujours la couverture tirée sur eux. Le regard uniquement par le pathos, même si dans la salle, je sais bien que c'est à ça que vous êtes confrontés en grande majorité, le regard uniquement par le pathos sur les usages de substances, eh ben, en fait, il commence à me gonfler un petit peu, tout simplement. Ensuite, on s'intéressera à ce pourquoi on m'a demandé d'être là. J'ai failli dire à ce pourquoi j'ai été payé. Moi, je ne suis pas payé, en fait. les codes sociaux du passage à l'acte à l'adolescent. C'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les mécanismes sociaux qui peuvent pousser un jeune. Alors on verra déjà que cette catégorie de jeunes, ça se questionne. Hein. Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot », on verra ce que cette phrase veut dire. Mais voilà, essayer de voir les mécanismes qui sont à l'œuvre en amont des passages à l'acte adolescent, mais presque en amont de l'addiction. Hein. On n'est pas encore forcément dans l'addiction, bien entendu, ce n'est pas parce qu'on consomme qu'on est en situation d'addiction, on y reviendra. Alors là, je mobiliserai, c'est là où je vous dis, moi je suis un très bon perroquet, je mobiliserai différents auteurs, ça vous donnera un peu une base de référence, et puis si ça vous intéresse, vous aurez toute opportunité à aller gratter un petit peu plus, et puis après vous pourrez faire vous-même le perroquet. Troisième aspect de cette communication, alors c'est toujours lié à cette idée de jeunesse et d'adolescence, mais on va ouvrir un petit peu. C'est-à-dire que ce que je vais raconter dans cette troisième partie correspond, ça marche très bien aussi par rapport aux adolescents, mais ça va ouvrir un petit peu sur le passage à l'acte, c'est-à-dire comment notre société produit de la consommation, d'une manière générale. Et ce qui sera dit là marche aussi très bien pour les adolescents, donc il n'y a aucun souci. Ça va ? On est entre nous. Sincèrement, si vous avez des trucs qui vous paraissent complètement tarés dans ce que je vais raconter, que vous ne comprenez pas ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me poser la question en direct plutôt que d'attendre la fin et ne pas poser la question. Moi, ça me va tout aussi bien de fonctionner comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Un regard particulier, donc. Alors, quand j'étais en doctorat il y a 15 ans maintenant, une des tâches à laquelle je me suis attelé, sans même m'en rendre compte, ça a été de définir ce que c'était qu'un usager. Alors, pourquoi je dis sans même m'en rendre compte ? Parce que je me suis retrouvé confronté à une difficulté qui était, quelle est la population que j'étudie ? Quand vous arrivez étudiant en sociologie, on vous dit, quelle est ta population ? Alors, les usagers de drogue, ouais, bah, super. Alors là, il n'y a pas plus différencié que cette population-là. Et donc, j'ai été hyper embêté pour construire ma population. Et ça m'a obligé à construire une définition de l'usager de substances psychotropes. Donc, je ne parle même pas de la personne en situation d'addiction dans un premier temps, hein, de l'usager de substances psychotropes et qui avait pour ligne directrice, si vous voulez, d'éviter l'aspect médical, pas parce qu'il est faux, mais parce que ce n'est pas mon boulot, d'éviter l'aspect pathologique, parce que comme je le disais, il y en a marre de parler des drogues toujours sous l'aspect pathologique, mais les drogues, c'est un univers inouï. Enfin, je veux pas vous vendre du psychédélisme, hein, mais c'est un univers beaucoup plus large que le simple aspect médical. Donc, qu'il ne soit pas médical, qu'il ne soit pas une définition qui ne soit pas médicale, qui ne soit pas pathologique, qui reste quand même à peu près scientifique, on va le voir. Si la sociologie est scientifique, on peut se poser la question, et qui ne soit pas négativisante. C'est-à-dire qui rompt avec le sens commun. Qu'est-ce que ça veut dire une définition négativisante ? Si vous regardez la façon dont on définit en général les usagers de drogue, c'est toujours par le biais du manque ou quand il y a du trop, c'est du... Enfin, du manque ou du trop, mais c'est jamais au bon endroit, quoi. On est toujours dans quelque chose qui ne va pas, toujours dans des définitions négatives. Alors, cette définition, elle a bougé un petit peu, elle a commencé, puis un jour je me suis dit, ah tiens, elle commence à être cohérente, et puis j'en ai rajouté des petits morceaux, voilà, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, c'est peut-être un des seuls trucs que j'ai vraiment inventé moi-même sur la question des addictions. Vous voyez, c'est pas grand-chose, c'est trois lignes, et encore trois lignes sur un PowerPoint, peut-être sur une fiche feuille Word, ça fait une ligne et demie. Et encore, je dis inventé moi-même, si vous regardez juste en dessous, tous les concepts, je les ai piqués à d'autres auteurs. Je suis un très bon perroquet. Donc, c'est quoi cette définition de l'usager ? Et je dirais, en l'occurrence, et ça c'est un rajout que j'ai fait, de l'usager complexe. C'est-à-dire complexe au sens où l'usager auquel vous êtes confronté, c'est-à-dire celui qui nous emmerde, si vous me permettez l'expression, celui qui pose problème. Parce que l'usager de drogue, il y en a plein. Ce midi, il y a des gens qui ont bu du vin. Eh bien, c'est super. Je vous souhaite une très bonne sieste. Mais c'est-à-dire que j'ai été obligé de rajouter définition de l'usager complexe, c'est-à-dire même le nom de la définition me posait problème, si vous voulez. Usager complexe, c'est-à-dire celui que vous voyez. Parce qu'il y a, d'une part, tous les usagers qui ne posent pas problème, et puis ensuite, il y a tous les usagers qui pourraient éventuellement poser problème au monde social, médico-social, mais qu'on ne voit pas. Donc finalement, c'est encore assez restreint, mine de rien. Donc c'est quoi cette définition ? J'avais une tante pharmacienne bourgeoise de droite, elle ne lui a pas plu du tout cette définition. Elle préférait jeune, pauvre et malade. Voilà. Bon, un jour, il faut rompre avec le sens commun. Alors, je vous ai dit, bah, je n'ai pas la scène au repas de famille. J'ai mis un quart d'heure à lui expliquer ma définition, ce que je vais faire là maintenant. Et elle m'a dit oui, mais non. Voilà. Bon, c'est le drame de la sociologie. C'est que la sociologie, ça ne sert à rien. Tout le monde connaît le monde social. On n'a pas besoin des sociologues. Surtout pas ma tante. Alors, un individu dont la ligne biographique dominante consiste en la recherche et la consommation d'une ou plusieurs substances psychotropes, faisant de sa quête une expérience totale et ayant recours à l'assistance privée et ou publique. Alors cette définition, on va essayer de la décortiquer ensemble. Première idée, un individu dont la ligne biographique dominante consiste en la recherche et la consommation. Je m'arrête là. Ligne biographique dominante. Alors, c'est hyper simple à comprendre, ligne biographique, c'est nos histoires de vie. Nos histoires de vie, on en a tous. On n'en a pas 50, hein, en général. Hein. On a le travail, on a la famille, peut-être un hobby qui traîne, un loisir, une addiction parfois, etc. Donc, des lignes biographiques, on en a plusieurs. Jusque-là, tout va bien. Et chez Albert Augien, donc dans son ouvrage « Sociologie de la déviance », Il aborde cette idée que parfois certaines lignes biographiques sont jugées négativement par autrui, le reste de la société, un groupe, un individu, etc. Faisant de cette ligne biographique une ligne biographique déviante. On n'est pas jamais pleinement déviant, on est déviant autour d'une chose. Et puis, à partir de là, une fois qu'on commence à réfléchir à cette idée de ligne biographique dominante, dans la question de l'addiction, on arrive justement à ce moment où cette ligne biographique qui est censée être très secondaire, je bois un verre de vin le midi, très bien, eh bien, elle va prendre de la place jusqu'à devenir dominante. Et encore que jusque-là, peut-être c'est pas si grave, faut voir. Ah, puis après, chaque individu est différent, faut faire du cas par cas, etc. Ce qui peut plutôt poser problème, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne biographique dominante ? Ben, c'est celle qui prend le plus de temps dans votre vie, dans votre cerveau, en permanence, etc., hein, tout simplement. Dans la grande majorité des cas, c'est quoi ? Ben, c'est le travail, bien entendu, personne n'est dupe. Hein. Mais ça, ça ne gêne pas la société, hein, bizarrement, pas de problème là-dessus. Le travail, ça peut être bien sûr la famille aussi. C'est en général les lignes biographiques dominantes des individus. Jusque-là, tout va bien. Un individu dont la ligne biographique dominante consiste, alors là elle est particulière cette ligne biographique dominante pour cette population, enfin pour cette tentative de circonscrire cette population, c'est que cette ligne biographique dominante consiste donc en la recherche et la consommation, puisqu'on parle tout le temps de la conso, mais en fait la recherche de consommation encore plus quand on est à la rue, quand on est dans des situations de précarité, eh ben ça prend énormément de temps. C'est un boulot à temps plein. C'est un boulot à temps plein, être toxicomane. Hein. Faut donner du sien, c'est pas évident. On y reviendra avec la carrière des viandes. Je veux pas vendre mes blagues avant de les faire, ça serait dommage. Donc, consiste en la recherche et la consommation d'une ou plusieurs substances psychotropes. Alors, pourquoi ? À la base, j'avais mis d'une substance psychotrope. Alors, j'ai rajouté d'une ou plusieurs substances psychotropes. Parce que quand j'ai fait ma thèse, il y a encore 15 ans, en fait, j'ai été beaucoup Mon discours a été beaucoup formaté par un ancien travailleur social, Frégine. Pour ceux qui, les vieux de la vieille dans la salle, peut-être le connaissent encore. Il bossait à l'ONPA 34. L'institution n'existe même plus, c'est pour vous dire. Et il m'avait expliqué ce discours qui était de dire, il y a eu une époque, dans les années 60-70, en général, les consommations portaient une revendication très précise. Et à ce titre-là, il y avait souvent une substance qui était mise en avant. Alors, je caricature un peu les hippies, la marijuana, le LSD, le punk avec la bière et peut-être des substances un peu plus costauds, etc., etc. Et puis, en fait, ce qui se passe depuis 30, 40 ans, et tous les rapports le montrent, hein, si vous allez sur tous les sites de référence sur la question des usages de drogue, montrent ça, c'est que de plus en plus, on va vers une polyconsommation. Et polyconsommation qui ne vient pas nécessairement porter un discours. Et là, il y a une complication de plus par rapport à notre question d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discours revendicatif qui porte la consommation. Le mot d'ordre, c'est la défonce. C'est l'anesthésie, c'est la défonce. Et à ce jeu-là, eh ben, peu importe ce qu'on prend, à la rigueur. Alors, les gens ont toujours leurs petits produits de prédilection, hein, ça c'est clair. Mais en réalité, quand il y a quelque chose qui passe, on tape, on prend, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une ou plusieurs substances psychotropes, faisant de sa quête une expérience totale. Donc, on est bien dans une quête, hein, on est bien dans une recherche permanente qui pousse l'individu dans une expérience totale. Alors, cette idée-là, je l'ai piquée à deux autres auteurs qui ne parlent pas forcément des addictions. Je l'ai piqué à Marcel Mauss, un grand classique, hein, l'histoire du fait social total. Qu'est-ce que c'est qu'un fait social total ? C'est quand, dans une société, vous avez des phénomènes sociaux qui demandent toutes les ressources de la société. C'est-à-dire que toutes les institutions se mettent en place, en branle, en énergie, pour ce phénomène-là. Eh bien, l'idée que j'ai eue, c'est de transposer ça au niveau de l'individu. De dire que bah, l'individu est en train de faire une expérience totale. C'est-à-dire que toutes ces ressources sont mises au service de cette recherche et de cette consommation. Et c'est là, éventuellement, que ma définition rejoint l'addiction. C'est-à-dire quand la ligne biographique dominante va petit à petit assujettir toutes les autres lignes biographiques. Toutes les autres lignes biographiques, le travail, les amis, etc., ont comme objectif la recherche et la consommation. Alors c'est dommage, je ne l'ai pas noté là, j'avais un jour un usager qui m'avait sorti, je cite de mémoire, pardon, hein, une phrase, c'était du genre « Mais moi, toutes mes relations, c'est le boulot. Le pharmacien, c'est le boulot. Mes amis, c'est le boulot. C'est aller chercher la dope, en fait. Même le réseau de potes, c'est comment se procurer la dope. Le pharmacien, bah, j'y vais pas pour acheter du Doliprane, on s'en doute. Enfin, le médecin, j'y vais pas parce que je suis malade, j'y vais pour avoir une ordonnance, etc., etc. » Et finalement, il faisait une analogie qui est intéressante et que je ressortirai tout à l'heure, entre ce qu'il faisait et du travail, en réalité. Ça lui accapare toute sa journée. Et sa ligne biographique dominante qui était « je consomme et je me défonce », eh ben, petit à petit, est allé s'accaparer toutes les autres lignes biographiques. Cette idée, je l'ai aussi piquée, alors là, à Robert Castel, dans Les sorties de la toxicomanie, Robert Castel explique cette idée d'expérience totale. Et enfin, j'ai rajouté ce que je n'avais pas fait au début dans cette définition. Vous voyez, il y a un petit « et ». C'est-à-dire que jusque-là, autrefois, j'arrêtais ma définition à cet endroit, et puis j'ai rajouté « ayant recours à l'assistance privée et ou publique ». Alors, d'où je sors ça ? Je sors ça d'un vieux bouquin, Simmel, sociologue allemand du début du XXe siècle, sociologue un peu atypique, qu'on a redécouvert assez tard en France, notamment via les sociologues américains du milieu du XXe siècle, dans un bouquin qui s'appelle « Les pauvres ». Et Simmel, à propos des pauvres, il a une définition, il cherche à faire une définition des pauvres qui n'est pas une définition économique. C'est-à-dire que lui, dire les deux tiers du revenu médian, on s'en fout de cette définition, puisque la pauvreté est variable, selon les individus, selon les époques, selon les cultures, et selon les ressentis subjectifs de la pauvreté. Donc la définition économique, elle ne sert à rien, elle sert à mettre en place des politiques de redistribution et de fiscalité, ça c'est très bien, mais elle n'explique en rien ce qu'est la pauvreté. Et donc, il cherche une définition de la pauvreté qui puisse permettre d'objectiver les subjectivités de la pauvreté. Objectiver les subjectivités, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben moi j'ai un ressenti de la pauvreté, c'est pas le même que Gérard, c'est pas le même que Philippe, c'est pas le même que etc., etc., Sophie, peu importe. Et comment on peut du coup arriver à désigner ces individus par la même idée? Et ben il dit, il y a un concept qui objective toutes les subjectivités de la pauvreté, c'est lequel? L'assistance. L'assistance, du moment où vous demandez l'assistance, vous vous révélez en tant que pauvre. C'est-à-dire que votre étiquette sociale, votre image sociale devient effectivement celle du pauvre seulement à partir du moment où vous acceptez de demander assistance. Accepter ou parce que vous en avez vraiment besoin. Mais c'est un truc de fou cette définition, c'est-à-dire que Charles-Henri de Bonnefamille qui demande à son papa un troisième yacht parce que sinon il considère qu'il ne vit pas au niveau de vie qu'il considère devoir être le sien et qu'il va avoir la loose devant ses potes qui ont déjà trois yachts, ben ce mec est pauvre. Ouais, alors ça fait grincer des dents en général quand je dis ça. Mais il a un rapport à son groupe social qui n'est pas le nôtre, et c'est pour ça que ça fait grincer des dents. C'est évident que ce n'est pas le nôtre, mais on se dit trois yachts, putain, c'est cool. Bah, chez lui, c'est grave de ne pas avoir trois yachts, en fait. Et du coup, avec cette définition, Zimmel, il a un tour de force. Il nous dit, mais la pauvreté, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème social. C'est le ressenti que j'ai et le groupe social dans lequel je vis qui définit la pauvreté. L'autre tour de force de Zimmel en faisant ça, c'est qu'il nous dit, mais un pauvre qui n'aurait pas recours à l'assistance n'est pas considéré comme pauvre par son groupe d'entourage. C'est un problème de définition sociologique. Quelque chose ne peut avoir d'existence sociale que du moment où c'est partagé socialement. Si c'est tout seul dans mon coin au fond de ma chambre, ça n'a aucun impact, ça ne change rien, ça ne fait rien. Mais du moment où je dis je suis pauvre, on me reconnaît en tant que pauvre. C'est-à-dire je deviens visible en tant que pauvre. C'est OK ? Eh bien, pouf ! Je ne me suis pas emmerdé, j'ai transposé ça à la question des addictions. Parce que du coup, dans les carudes, dans les XAPA, dans les CHRS et les bidules, pardon, c'était un peu péjoratif, je m'auto-flagelle, c'est les individus visibles qu'on voit. Et donc, c'est de cela uniquement qu'on peut parler. C'est tous les invisibles, on ne sait pas où ils sont. Et donc, ils ne deviennent visibles que quand ils arrivent dans vos institutions, que quand, justement, ils demandent de l'assistance. Alors, bien entendu, il y a tout le aller vers qui se développe, justement, parce qu'on prend en considération ce problème-là. Comment venir en aide, enfin, j'aime pas trop l'idée, mais comment aller auprès de ceux qui, justement, sont invisibles. Voilà, pour essayer de rompre un petit peu... Ah ouais, c'était la première diapo. On va passer un peu plus vite sur les autres. Alors, il y a un mec qui est vachement bien. J'avais prévu normalement des petits trucs qui devaient bouger, vous savez, comme les Jones, et ça a complètement foiré. Il y a un mec qui est vachement bien, c'est le docteur Olivenstein. Le docteur Olivenstein, c'est un médecin. C'est pas pour ça qu'il est vachement bien. Il est vachement bien parce que c'est un médecin qui a arrêté de regarder la question des addictions, ça n'existait même pas le terme d'addiction à son époque d'ailleurs, seulement par le prisme médical et pathologique. Et c'est un médecin, moi je dis enfin, merci, merci, merci. Et Olivenstein, il a cette idée, donc il va pondre dans son ouvrage « La toxicomanie, l'homme et son poison », ce que l'on appelle, c'est devenu un espèce de classique, le triangle multifactoriel. Le triangle multifactoriel, c'est-à-dire que pour comprendre l'addiction, bien sûr, il y a la substance, mais il y a aussi un contexte social, historique, de groupe, etc., culturel. Et puis, il y a l'individu. Ça nous donne qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'addiction ? Eh bien, une personne vulnérable, exposée à un produit suffisamment addictif, dans un environnement favorable à la consommation. Cette personne-là, nous dit Olivenstein, aura un risque accru de développer une addiction. Un risque accru, ça reste une probabilité statistique. On n'est pas obligé de devenir tout de suite addict. Du coup, je pensais rester un peu plus longtemps, on va passer un peu vite. L'addiction, à partir d'Olivenstein, en France en tout cas, Et c'est devenu quelque chose de très commun, hein, finalement, dans le milieu de la prise en charge, eh bien, elle est pensée comme une maladie bio-psychosociale. Je n'étais pas là, malheureusement, pendant qu'Hélène Donadieu parlait ce matin, mais je sais qu'elle défend aussi cette position-là, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, juste un petit mot. Mais en fait, je l'ai déjà dit, donc je vais passer très vite dessus. Mais addictologie, moi, j'aime pas ce terme. Déjà, en français, on en a un, ça s'appelle l'assuétude, ça dit la même chose. Et puis, addictologie, ça nous oblige à penser ça comme étant la chasse gardée d'un savoir scientifique et médical. Et ouais, addictologie, discours rationnel sur les situations d'addiction. Et là, je vous invite à aller gratter chez Michel Foucault. On est là face à un bio-pouvoir. Un bio-pouvoir, c'est-à-dire un bio-savoir-pouvoir même. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont la légitimité pour dire ce qu'est la drogue, pour dire ce qu'est l'addiction, pour dire ce qu'est une personne en situation. Et ça, au nom de quoi? Au nom de notre adhésion à tous au discours légitime scientifique et particulièrement médical. Voilà, je clôt la parenthèse. Vous voyez, c'est un truc qui me fait monter dans les tours directs. Hein. Je ne reste pas plus longtemps là-dessus, mais il faut se méfier de ces mécanismes-là. Et j'ai beaucoup aimé que ce matin, il y ait des témoignages, parce que du coup, ça casse ça. Et ça casse ce que moi-même, je suis en train de faire. Hein. Moi, je suis en train de vous produire un savoir-pouvoir actuellement, là. Et donc, c'est très bien qu'on ait eu aussi des témoignages. Alors, on arrive enfin au quart d'heure jeune. Les causes sociales du passage à l'acte à l'adolescent. Alors, déjà, on a toujours un problème de population, hein, en sociologie, c'est toujours le bordel, on ne sait jamais définir de quoi on parle. La jeunesse n'est qu'un mot. Bourdieu l'a très bien dit dès les années 70-80 dans une interview qui sera reprise dans un ouvrage qui s'appelle Questions de sociologie. Regardez comme il sourit, c'est beau. La jeunesse n'est qu'un mot. En fait, ça ne veut rien dire, la jeunesse. Il faudrait dire des jeunesses. Et j'ai vu très brièvement le PowerPoint d'Hélène Donadieu ce matin. Elle a mis des femmes. Et bien sûr, c'est la même idée. Il y a des parcours, des jeunes. Mais en plus des jeunes, chaque individu est jeune à sa façon. Et puis alors, sans parler des catégories sociales. Le jeune bourgeois des beaux quartiers d'Elogueulon qui sort de sa maison à 1,5 milliard, là, ben, c'est pas le même que Mohamed en bas de sa tour à la Mosson, à la Paillade d'ailleurs. Parce que le renaming aussi, ça m'énerve. Donc il n'y a pas qu'un jeune. Et du coup, on va essayer de réfléchir à cette période-là qui est un peu bizarre en Occident. Et je dis bien en Occident parce que c'est l'Occident qui a inventé l'adolescence. Là aussi, je vais me faire taper sur les doigts. Mais ça n'existe pas l'adolescence dans la plupart des cultures. Vous êtes enfant, rite de passage, adulte, premier sperme, première menstruation. Le rite de passage, des fois, il dure 3 jours, des fois, il dure une semaine. Mais c'est hyper court, cette période. Et on vous donne votre nouvelle position sociale. Vous étiez enfant, maintenant, t'es ça, t'es chasseur. Je caricature complètement. Hein. T'es chasseur, t'es cueilleur, t'es truc, t'es bidule. Alors, justement, ce rite de passage, c'est, selon moi, l'explication la plus évidente d'un point de vue sociologique du passage à l'acte à l'adolescence. Et je ne parle pas forcément là du pimpin taré que vous retrouverez dans les institutions. Hein. Ça peut être juste pourquoi on se met à fumer à 12 ans, quoi. Eh bien, c'est une façon, une bonne façon de mal se conduire ou une mauvaise façon de bien se conduire. Je ne sais pas trop comment il faut le tourner, encore j'hésite entre les deux. Mais c'est-à-dire que ça va être un moyen de marquer notre sortie de l'enfance. Alors, pourquoi on va passer par ces rites de passage transgressifs? Eh bien, il y a une double raison. Déjà, ils sont transgressifs parce que reconnus socialement comme transgressifs, mais tout simplement parce que la société ne propose plus ces rites de passage. Regardez par quoi on a remplacé. Alors, il y avait encore le bac, ils ont réussi à le dézinguer, éventuellement le permis de conduire, mais tout le monde ne le passe pas. L'armée, bon, ça c'est plutôt une bonne chose qu'il n'existe plus celui-là, mais. Donc, on a remplacé le rite de passage, qui déjà n'avait pas valeur sacrée, hein, qui avait déjà un euphémisme. Et on l'a replacé par une initiation de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais les jeunes, les gamins, enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais ils ne savent plus. s'ils sont adultes, s'ils sont enfants, ils sont en permanence entre l'oisiveté de l'enfance et la pression de devenir adulte. Et ce passage aujourd'hui dure énormément de temps. Donc je pense que là on a une bonne explication. Alors rite de passage transgressif, ça c'était l'ancien responsable de Arc-en-Ciel qui m'avait sorti ça, feu Jean-Marie Ferrari. Et moi, j'avais remplacé ça par rite de passage sauvage, en référence à Roger Bastide. J'ai pas le temps de le développer. Roger Bastide juste dit, il y a du sacré domestique et du sacré sauvage. Le sacré domestique, c'est celui qui est socialement reconnu. Le sacré sauvage, c'est celui qui n'est pas socialement reconnu, mais qui peut avoir quand même du sens pour l'individu. Et donc, on est là face à un rite de passage sauvage, c'est-à-dire non institutionnellement et socialement reconnu, mais qui malgré tout a du sens pour l'individu, bien entendu. On peut aussi voir tout simplement, alors ça c'est pas du tout de moi, c'est vraiment un truc que je pique à David Le Breton, notamment dans son ouvrage de L'adolescence à risque, mais alors il y a plein d'articles, c'est un auteur très prolifique, avec cette idée qu'il y a un besoin chez la personne adolescente de se réapproprier son corps. En fait, c'est une façon de trouver son identité. Hein. Qu'est-ce que c'est que la peau? C'est l'interface entre le moi et le vous, entre le moi et le nous. Et du coup, on va marquer ce corps. On va marquer ce corps pour se l'approprier, pour se l'intégrer. Et donc, les passages à l'acte en termes d'usage de drogue, mais aussi les scarifications ou les tatouages, sont autant de rites de passage adolescents contemporains. Ça marche très très bien pour le tatouage notamment, puisque là on voit bien la dimension, on est passé dans les tribus traditionnelles avec les rites de passage qui permettaient à l'individu de s'intégrer, de se rappeler l'histoire de la tribu, ça servait à ça le tatouage communautaire, et aujourd'hui on voit bien la dimension individualiste du tatouage où on se marque des dates, vous savez, c'est vraiment devenu quelque chose de très individuel mais qui marque un rite de passage, celui avec la date en un chiffre romain souvent pour bien marquer le truc. Socialisation secondaire et carrière déviante. Et bien finalement, la socialisation secondaire, c'est la socialisation qui arrive après la socialisation primaire. Ok, merci d'être venu. Ça veut dire que vous avez une socialisation primaire qui consiste en général autour de la famille, l'école, etc. Puis une socialisation secondaire, c'est quand on va s'extirper de ce premier noyau. Et en général, la socialisation secondaire se construit plus ou moins sur la socialisation primaire, notamment à cause du langage, mais elle peut aller voir d'autres sphères du monde social. Et ça va être un moment où, justement, potentiellement, on va vouloir construire en opposition avec ces sphères sociales d'origine. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure avec le rite de passage transgressif. Alors, à partir de là, il y a un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, en plus hyper abordable, très facile à lire, Becker, c'est un sociologue américain, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Outsiders, dans lequel il... j'aimerais tellement parler plus longtemps. Dans lequel il aborde deux populations dans les années 60 aux États-Unis, les musiciens de jazz noirs qui vivent la nuit, tout ça, et les usagers de marijuana. Alors, en quoi être musicien de jazz noir, c'est être déviant? C'est une étude de sociologie de la déviance, c'est le sous-titre du bouquin. Tout simplement, à l'époque, les années 60 aux États-Unis, être noir, vivre la nuit et faire du jazz, vous êtes déviant. Ça suffit. Et puis, les fumeurs de marijuana. Et à propos des fumeurs de marijuana, il va développer un concept que je trouve hyper intéressant, c'est ce qu'il appelle la carrière déviante. La carrière déviante, c'est quoi? C'est qu'en fait, il se rend compte que de la même façon qu'on peut se socialiser normalement, on peut se socialiser dans un parcours déviant. Et en fait, on ne devient pas usager du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut du temps, il faut des années même pour être un bon usager, si vous me permettez l'expression. Il faut donner du sien. Donc quand votre petit frère se mettra à fumer des joints, dites-lui, oui, tu sais, mais c'est compliqué la carrière dans laquelle tu t'engages. Il va falloir du temps, Et il nous montre les étapes. Il faut apprendre à fumer, il faut apprendre à s'approprier le matériel, il faut apprendre à coder les effets comme positifs. S'il y a des fumeurs, ne serait-ce que de tabac dans la salle, rappelez-vous vos premières cigarettes. Vous avez les genoux qui tremblent, envie de vomir. Putain, mais comment on peut arriver à aimer ça à la fin, quoi? J'ai été fumeur pendant 15 ans, vous inquiétez pas. Donc, De la même façon, on peut rentrer dans une carrière déviante. Et j'adore cette idée parce que il y a vraiment une analogie avec la carrière professionnelle. C'est voulu, c'est clairement voulu. Hein. C'est pas pour rien qu'il prend ce terme-là. Alors, on est dans les années 60 aux États-Unis, pleine révolution psychédélique. C'était peut-être plus simple de faire ce genre d'analogie pour parler des drogues. Mais il y a vraiment cette idée que c'est un processus dans lequel on rentre et qui va demander du temps. Alors, c'est sûr que derrière, tout l'aspect pathologique, addiction, biologique, peut accélérer le processus, bien entendu. Mais l'idée aussi, et je me permets de le dire tout de suite, de faire une analogie avec la carrière, c'est aussi montrer que c'est un parcours de vie. Alors certes, potentiellement tragique, mais c'est un parcours de vie. Et quelque part, moi je comprends plus facilement un mec qui finit fumeur de spliff ou même d'autres substances qu'on qualifiera de plus socialement moins tolérées, que le mec qui veut devenir PDG de chez Total, quoi. Non, mais il faut être taré pour s'engager dans des parcours de vie pareils. Les deux sont stressants, c'est possible. Du coup, quand on est stressé, on se drogue en plus. C'est compliqué. Ça, peut-être, je vais le passer. Ça reprend un peu la même idée. C'est les systèmes d'étiquetage. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes perçu dans une carrière déviante en tant qu'usager de drogue, en tant que personne en situation d'addiction, en tant que toxicomane, je préférais presque le terme de toxicomane, mais je l'aimais bien en fait, vous allez avoir tendance à vous comporter comme le regard social vous pousse à vous comporter. Alors, c'est un truc hyper instinctif et normal. On fait tous ça. C'est-à-dire qu'on se conforme au regard d'autrui, bien entendu, parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder à devoir discuter notre image sociale en permanence. Sauf que quand cette image sociale est négative, ça pose problème. Et du coup, on n'est plus du tout face à une identité sociale conquise, on est face à une identité sociale subie, ce qu'on appelle un stigmate en sociologie. Et donc, à partir de là, et là, je pique encore l'idée à quelqu'un d'autre, à une ancienne directrice du XAPA, du CARU de la boutique, Monique Douguet, qui me dit, mais en fait, putain, t'es sociologue, réveille-toi. C'est de la RDR sociale qu'il faut faire aujourd'hui. La RDR médicale, ok, on n'est pas au bout, il y a encore beaucoup de gens à convaincre, mais elle est bien engagée finalement. Ça fait 40 ans qu'on nous parle de RDR en médecine maintenant, et vis-à-vis des addictions. Et elle disait, peut-être aujourd'hui ce qu'il faudrait faire, et à ce titre je vous remercie vraiment de m'avoir invité, c'est de la RDR sociale, c'est-à-dire venir déstigmatiser, décloisonner, alors je ne sais pas comment on fait, mais déjà en parler un petit peu de temps en temps, c'est pas mal, ces processus d'étiquetage autour de la question des usages et des pratiques. Je passe un peu, je suis désolé. Vous me réinviterez. Le mec qui s'incruste. Alors celle-là, elle est bien, voilà, c'est pas mal ça, c'est bien. C'est un usager, un jour qui m'a dit ça, je faisais un entretien, et il me dit, on nous demande tout le temps de consommer, et le jour où quelqu'un s'y met vraiment, on l'engueule. Sur le coup, je n'ai même pas tilté, j'arrive chez moi, deux, trois jours après, je retape mon entretien, et là, je lis la phrase, et je me dis, mais quel génie. Et putain, c'est lui qui devrait être sociologue, c'est pas moi, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire, mais qu'il a parfaitement compris le monde dans lequel il vivait, il a parfaitement intégré les valeurs de notre société. Bien sûr, sois un consommateur et tais-toi, mais sois le consommateur qu'on te dit d'être, pas celui que tu veux être. Et là, j'ai gratté un peu, et je me dis, mais en fait, le mec, il est usager, donc consommateur, hédoniste. Est-ce que ce n'est pas une des valeurs centrales de notre société? Individualiste. Ouais, ça marche super bien. Incertain. Je ne sais pas trop de quoi son demain sera fait. C'est le cas de la grande majorité des jeunes aujourd'hui. Vulnérable, on l'est tous. Mais en fait, ce mec, et pourtant je peux vous assurer, on est face là, usager, précaire, précaire, précaire plus, c'était à Access. Tiens. Et il n'y a pas que ça à Access, mais bon. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial, parce que ce mec est un pur produit de notre société. Ce n'est pas du tout un mec à part, c'est qu'il a parfaitement intégré le monde social dans lequel il vit. Alors oui, il le pratique d'une façon un peu étrange, mais il n'y a aucun doute, il a tout à fait compris le monde dans lequel on vivait. Il n'est pas fou, il n'est pas con, il n'est pas teubé, il n'est pas ce que vous voulez. C'est un individu tout à fait normal. Alors, je passe la théorie de l'attention avec Merton. Ça explique, à partir de là, on peut expliquer certains fonctionnements de pourquoi on devient déviant. Et je conclurai, ben voilà, je vais conclure avec Michel Foucault ou avec Alain Ehrenberg. Vous préférez qui ? Les deux ? Allez, j'ai le droit aux deux, la chef, elle a dit j'ai le droit aux deux. Alors, Michel Foucault, il n'a jamais parlé des drogues, il n'est pas fou. Il était lui-même usager, donc on se méfie en général quand on est un peu trop proche de notre sujet, on évite d'en parler. Par contre, je suis allé piquer chez lui un truc, il appelle ça les techniques de soi. Alors, ce n'est pas du tout pour les drogues, hein. Notamment, il parle de la prière, il parle de la psychanalyse, etc. Qu'est-ce que c'est que des techniques de soi ? C'est des outils que les individus, seuls ou en groupe, vont mobiliser pour modifier à la fois leur comportement, leurs idées, leur manière d'être, etc., pour qu'elles correspondent à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Des outils de soi, on en mobilise en permanence. C'est votre petit rituel de douche, c'est la manière dont vous vous habillez, etc. C'est ce qui va vous donner votre être au monde, finalement. Et les drogues sont un super outil de soi. Vous voulez accélérer, vous voulez ralentir, vous voulez être sociable, vous voulez mieux baiser, excusez-moi l'expression, on parlait du chemsex à midi, vous voulez, etc., 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 etc. C'est des outils incroyable, c'est des outils incroyables les drogues. Il faut bien qu'on le dise, n'en déplaise à Darmanin. Bien entendu, il peut y avoir du pathos derrière, il peut y avoir des situations problématiques, etc. Mais c'est un outil de fou. D'ailleurs, l'humanité s'est pas trompée. On ne connaît pas de culture qui n'utilise pas de substances psychotropes. Zéro. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est quand même une dinguerie, quoi. Alors, il y a peut-être les Esquimaux. Mais heureusement, la civilisation est arrivée, on leur a apporté l'alcool, tout va bien. Donc, sociabilité, performance, recherche de plaisir échappatoire face à la violence du monde, au trop-plein de la vie utilitaire, oubli de soi, oubli de la souffrance, processus d'auto-exclusion, quand le monde social devient trop dur et qu'on a besoin de fuir le monde social, trop facile. J'ai pas besoin de me barrer au Canada, je prends de la drogue. Je caricature un peu, hein, c'est un peu à la hache. Voilà, alors la dernière idée que j'avance vite fait, c'est celle d'Ehrenberg. Ehrenberg, il n'a pas directement... Enfin, si, il s'est intéressé aux addictions quand même, il ne faut pas que j'exagère, mais ce n'était pas trop son cheval de bataille. Ce qui intéressait Ehrenberg, c'était de comprendre les questions d'individualisme, particulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être dans une société individualiste ? Il faut se poser la question, hein. Parce que c'est à l'inverse de la question sociale. Si on parle d'une société individualiste, il y a un vrai paradoxe. Alors individualiste, ça ne veut pas dire égoïste. Ça veut dire que dans cette société-là, la valeur centrale, c'est l'individu. C'est ça une société individualiste. Mais cette société individualiste, elle va avoir un paradoxe. C'est qu'elle va pousser les gens vers l'autonomie. Eh bien oui, si c'est l'individu la pièce la plus importante, l'individu doit se constituer en tant que lui-même. Par lui-même, grâce à lui-même et à ses propres ressources. Il doit être autonome. Et s'il est autonome, il doit être responsable. Et cette responsabilité, devant le monde social, elle est extrêmement dure à porter. Et on est tous très inégaux vis-à-vis de cette responsabilité, notamment en fonction de nos parcours de vie, de nos lignes biographiques, mais aussi en fonction des structures sociales dans lesquelles on se situe, les groupes, les catégories sociales dans lesquelles on se situe. Donc cette injonction à l'autonomie, elle a un revers de la médaille, c'est une injonction à la responsabilité. Et pour Ehrenberg, cette injonction à l'autonomie et responsabilité dans une société individualiste est une des explications sociales de la dépression, du burn-out, des addictions. C'est-à-dire que dépression, burn-out, et alors Ehrenberg ne le dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, ce n'est pas des maladies biologiques, c'est des maladies sociales. La dépression et le burn-out sont des maladies sociales. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, bien entendu. Il devait y avoir des dépressifs et des gens très fatigués bien avant le capitalisme et le néolibéralisme. Mais notre société a systématisé ces maladies-là. C'est devenu des maladies sociales, au même titre que l'addiction. Et donc, alors l'addiction, pour lui, vient plutôt dans un second temps. C'est plutôt justement cet outil, cette technique, dans un premier temps, pour lutter contre la dépression, une espèce d'automédication contre la dépression, contre les burn-out, etc., etc. Et donc, il a cette phrase qui est parlante. Hein. La dépression et l'addiction sont les noms donnés à l'immatériel quand il ne s'agit plus de conquérir sa liberté, mais de devenir soi et de prendre l'initiative d'agir. C'est pas celle-là que je voulais lire, c'était celle du dessus, mais vous l'avez au-dessus. Voilà, pile à une minute de retard. Mais on a commencé avec deux de retard. Ça va. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Ça, c'est un truc que j'avais fait pour Support Don't Punish, c'est-à-dire un mouvement international de réduction des risques. Dedans, vous avez plein d'idées. Comme ça, si vous n'avez pas de questions, vous avez le droit de le lire et de poser des questions dessus. Le plus dur, c'est la première question dans un colloque. Donc, on peut passer directement à la deuxième. J'ai fait tout le temps les mêmes blagues, c'est une catastrophe. Hier, il y a un étudiant redoublant, il m'a dit « Mais monsieur, votre cours, il est chouette. » Bon, déjà, c'est pas mal. Et après, il m'a dit « Mais même vos blagues, vous les répétez. » Oui, mais faut pas redoubler aussi, quoi. Je l'enlève parce que vous êtes en train de lire et vous réfléchissez pas aux questions. C'est le problème des PowerPoint. Normalement, j'en fais pas. Parce que les PowerPoint, ça rend con celui qui parle parce qu'il lit son PowerPoint et ça rend con celui qui écoute parce qu'il lit au lieu d'écouter. Ouais. C'était ça la question ? Ah, ça va, je réponds, oui. Je peux le faire, oui. Donc, Ehrenberg, il écrit à la fin des années 80, en 10 ans, il écrit une trilogie. Il y a l'individu incertain, la fatigue d'être soi et le culte de la performance. Et c'est une très bonne entrée en matière pour comprendre les troubles individuels dans leurs origines sociales. Aller chercher ces fameuses causes sociales. Des troubles de la souffrance psychique. Voilà, c'est ça le terme. Les causes sociales de la souffrance psychique. Parce qu'il y a un piège aussi avec la souffrance psychique, enfin, avec toutes les maladies, parce que la maladie, par définition, on considère que c'est un individu. Et alors encore plus quand c'est de la souffrance psychique. Si c'est de la souffrance psychique, vu que la conséquence est dans l'individu, on cherche la cause dans l'individu. Et du coup, l'individu est malade et responsable. Et avec Ehrenberg, on comprend qu'il y a beaucoup de souffrances psychiques qui ne sont en réalité pas imputables à l'individu, mais au monde social dans lequel on vit, qui est d'une violence inouïe. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Que ça soit dans vos métiers, alors là, c'est le haut de l'iceberg, mais même ce qui est en dessous de la mer est d'une violence inouïe. Hein. Révolution, camarade. Normalement, je le dis plus fort dans l'amphi, mais bon. Là, j'ai mis ma chemise, je ne peux pas. Oui. Ça tombe bien, je ne sais pas trop comment y répondre. C'est-à-dire sur la mondialisation autour des usages. Ah. Bah, alors, il doit certainement y en avoir, pardon. Perso, je connais pas. Par contre, c'est évident qu'il y a eu une explosion de l'offre de certaines substances, notamment l'offre de cocaïne, ça c'est clair, elle a complètement explosé. Après, j'ai une thèse, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est plutôt une hypothèse qu'une thèse, c'est que ce n'est pas anodin que ce soit la cocaïne qui a explosé dans notre société. Alors, c'est très moralisateur, hein, ce que je vais vous dire, donc à prendre avec des pincettes, mais je crois vraiment que les sociétés ont les drogues qu'elles méritent. Et c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien. L'imaginaire de la cocaïne, je ne parle même pas de son effet réel, mais l'imaginaire de la cocaïne, l'imaginaire, le culte de la performance, le dépassement de soi, ben on est en plein dans les injonctions néolibérales, ça correspond hyper bien. Et puis, c'est un marché, faut aussi pas se voiler la face, hein. Il y a mondialisation, ok, mais c'est un marché énorme, c'est un business de fou, la drogue, ça fait vivre des quartiers entiers, quoi. Et le marché, bah, c'est quand même ce qu'on nous vend en permanence dans notre société. Donc tout ça me paraît finalement, n'en déplaise à Darmanin, assez cohérent. Je lui tape dessus depuis qu'il a parlé de la mexicanisation des quartiers. Vous avez entendu parler de ça quand même, non? C'est pour dire les problèmes de drogue, de narcotrafic dans les quartiers, dans les banlieues. Il a parlé de mexicanisation des banlieues. Non, mais n'importe quoi, mais comment on peut être aussi con, quoi? Mais non, bah, il faut bien se rendre compte de ce que c'est le narcotrafic tout en bas, pas celui des gros trafiquants, etc. C'est un narcotrafic de la misère. Mais les gens ne dealent pas parce qu'ils sont contents de dealer. Enrayer la misère, vous enrayerez ce narcotrafic-là, c'est trop évident. C'est parce qu'il y a de la misère que les mecs vendent de la dope en bas de la tour à la cité Saint-Gély. C'est pas parce que c'est leur kiff, quoi. Donc, vous voulez pas mexicaniser, je ne sais même pas le dire tellement c'est stupide, les banlieues, enrayer la misère. Ça y est, je suis en train de m'énerver. Oui, parce que j'ai insisté sur le problème du pathos, mais il faudrait insister sur le problème du pénal aussi, hein. Ça a été le traitement de toutes les questions de drogue pendant des années et des années et des années. Le fameux discours de Nixon dans les années 70, la guerre à la drogue. Putain, en même temps, il était en train de financer des armées paramilitaires via la CIA pour implanter le narcotrafic dans toute l'Amérique du Sud, quoi. Et après, ils faisaient des discours, on va faire la guerre à la drogue. Ce qui est intéressant comme expression, d'ailleurs, tant pis, hein, j'ai le micro, moi je parle. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, comme expression, parce que on ne fait pas la guerre à la drogue, on fait la guerre aux drogués. Et il faut faire super gaffe à ça. On ne prend pas nos petites mitraillettes pour tirer dans les sachets de cocaïne, hein. La guerre à la drogue, il y a des vrais morts, et la grande majorité, c'est des drogués. Enfin, des usagers, pardon. Je peux encore m'énerver un peu plus, n'hésitez pas à poser des questions. Non, en fait, je m'énerve parce que on entend tellement de conneries. Enfin, j'ai pas la parole sainte, hein, bien entendu, mais on entend tellement de conneries dans les médias à propos des usages. Mais c'est tragique, c'est ça qui est tragique, c'est la stupidité, excusez-moi, hein. Ou le mensonge, qui est encore plus grave que la stupidité. Stupidité, on n'y peut rien. C'est hyper prétentieux ce que je viens de dire. Peut-être on va arrêter là avant que j'ai les chevilles qui gonflent, je sais pas. Je vous en prie, merci à vous.